Vous écoutez
RMC.
Il est 6h sur RMC. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ils sont en mission, les Bleus filent en demi-finale du Mondial.
Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont réussi à se défaire sans difficulté du Maroc, victoire 2-0. Ils affronteront l'Espagne ou la Belgique mardi. Le retour de la canicule pendant que les incendies se multiplient presque partout en France. Une station de Savoie coupée du monde et puis un revers pour Olivier Faure, le Parti Socialiste, a finalement voté pour une primaire fermée en vue de la présidentielle.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Doué, faut batailler pour ce genre de ballon. Voilà qui est fait par Rabiot. Doué qui la récupère derrière, qui la glisse à Mbappé. Allez Mbappé, Mbappé, la frappe.
Vous l'avez vécu hier soir sur RMC. Au commentaire, Jean-Louis Tour, le but de la délivrance de Kylian Mbappé contre le Maroc.
Inscrit à la 60e minute, après un pénalty raté du capitaine et avant un deuxième but. 6 minutes plus tard d'Ousmane Dembélé, les Bleus filent donc en demi-finale du Mondial grâce à cette victoire 2-0, victoire sans appel. Florent Germain, tout porte à croire maintenant que la France a les armes pour aller jusqu'au bout.
Oui, c'est sûrement la marque des grandes équipes, celles qui visent le titre mondial, mais qui ont encore l'humilité de ne pas le crier trop haut ni trop fort, comme le capitaine Kylian Mbappé.
J'ai été champion du monde et j'ai été vice-champion du monde. Cette équipe, elle est ni championne du monde ni vice-championne du monde. Donc à l'heure actuelle, c'est pas la plus forte. C'est celle qui a le plus de potentiel. Elle te permet de rêver, bien sûr, mais la plus forte. J'ai toujours dit que les équipes fortes, c'est les équipes qui gagnent. Et jusqu'à preuve du contraire, je vois pas de coupe dorée à côté de moi, donc c'est pas l'équipe la plus forte.
Troisième demi-finale de Coupe du Monde de suite pour Didier Deschamps. Le sélectionneur reconnaît que les Bleus sont en mission.
C'est une belle date pour la France, le 14 juillet. On est en mission par rapport à ce maillot-là et par rapport à tout le, toutes les femmes, les enfants, les grands-pères, les grands-mères qui aiment l'équipe de France et qui ont envie de l'avoir gagnée.
Les supporters français la jouent moins prudent et voient déjà la France aller au bout.
Extraordinaire. Allez la France, on ramène la coupe à la maison.
La France, c'est la meilleure équipe du monde.
C'est très bien qu'on va y voir aller jusqu'au bout. Ils écrasent cette compétition. Franchement, on prend n'importe qui maintenant. Ils sont capables d'écraser n'importe qui. Ils sont là pour gagner. On va se les faire, quoi. On se les faire, les deux.
Prochain adversaire pour les Bleus en demi-finale, la Belgique ou l'Espagne. Ce sera donc à Dallas, le 14 juillet.
Et on aura la réponse ce soir. Belgique-Espagne, c'est à 21h et c'est donc une fin de parcours pour le Maroc. Nous devons accepter ce résultat, réagit le sélectionneur Mohamed Ouabi qui promet de continuer à construire une équipe capable de lutter pour le titre en 2030, la Coupe du Monde qui sera organisée au Maroc.
Il est 6h03 sur RMC. Il va falloir s'armer d'encore un peu de patience. Les fortes chaleurs devraient durer jusqu'à au moins mardi, selon Météo France.
Qui place à partir de midi 9 départements de l'ouest de la France en vigilance rouge canicule. Géraldine nous le disait, ce sera le cas demain pour le Centre-Val de Loire et l'Île-de-France. Une nouvelle cellule de crise autour du Premier ministre ce matin et des annulations en cascade d'événements sportifs ce week-end. C'est ce que demandait l'Association des médecins urgentistes de France et qu'ont donc décidé plusieurs préfectures Lougarnier.
Comme à Versailles dans les Yvelines où le triathlon qui devait se tenir dimanche est reporté, c'est trop dangereux pour les 2500 participants, estime la préfecture, alors que les températures devraient frôler les 35 degrés. En Loire-Atlantique, qui bascule aujourd'hui en vigilance rouge canicule, toutes les manifestations sportives en plein air sont interdites entre ce midi et mercredi 8h. Plusieurs événements étaient programmés, comme le trail de Guémenet prévu mardi. La préfecture de Vendée, elle, interdit tout événement sportif entre midi et 20h. Et ce jusqu'à la levée de la vigilance rouge. Des dérogations sont possibles si les rassemblements se déroulent dans des lieux climatisés ou s'il s'agit de pratiques sportives professionnelles. Même chose en Ille-et-Vilaine, la préfecture fait aussi une exception pour les événements sportifs qui ont lieu dans l'eau.
Vous allez nous dire ce matin déjà si vous avez des événements près de chez vous qui sont annulés et puis est-ce qu'il faut annuler toutes les compétitions sportives qui demandent un effort important. On s'inquiète de la disponibilité des personnels soignants dans les hôpitaux. C'est important, vous travaillez peut-être à l'hôpital, passez-nous un petit coup de fil ce matin au 3216. On sera avec le professeur Louis Soula qui est urgentiste, chef du service des urgences au CHU de Rennes à 6h40 tout à l'heure.
Ça n'en finit pas dans les Pyrénées-Orientales alors que la situation s'améliore de jour en jour selon le préfet sur l'incendie qui a déjà ravagé 5000 hectares et que les habitants de 9 communes ont pu rentrer chez eux, eh bien, deux nouveaux départs de feu ont eu lieu hier en fin de journée du côté de Perpignan. L'aéroport de la ville a été temporairement fermé, le trafic des trains interrompu. Un homme d'une cinquantaine d'années est en garde à vue après un comportement suspect près d'un de ces départs de feu.
Des évacuations aussi dans un camping de Die et d'un hameau de la Drôme où le feu progresse toujours.
Et pendant qu'une commune de Savoie est coupée du monde, la station de Pralognan-la-Vanoise isolée par un incendie qui coupe la route depuis mardi, mais tout est fait pour que la vie suive son cours, explique Sylvain Bonnet, le directeur de l'office de tourisme.
Pour les 4-5 000 touristes que l'on a, un pont aérien avec des hélicoptères se met en action pour assurer les restaurants, les hébergements à pouvoir avoir les stocks demandés. Et également la même chose concernant la venue de médicaments. Samedi, dimanche, on demande à nos hébergeurs d'appeler leurs clients pour ne pas se rendre sur la commune de Pralognan, éviter une surcharge de touristes aux abords de Pralognan. On ne pourra pas bénéficier de la population touristique qui était prévue ce week-end, donc c'est un caillou dans la chaussure. On va pas se mentir.
Incendie également dans le sud de l'Espagne. Il s'est déclaré hier en fin de journée près d'Almeria. Il a fait 12 morts, certaines personnes retrouvées mortes dans leur voiture. Au Parti Socialiste, une défaite pour Olivier Faure cette nuit. Le premier secrétaire du parti a perdu un vote sur la méthode pour désigner le candidat socialiste à la présidentielle. Soit une primaire ouverte au plus grand nombre, soit limitée aux adhérents. Et c'est donc la primaire resserrée qu'ils ont choisie. Cyprien Pézeril, service politique d'RMC, et Raphaël Glucksmann pourraient en profiter.
Oui, même si Raphaël Glucksmann n'a pas encore confirmé sa participation à cette primaire, c'est bien ce format resserré qui pourrait lui être le plus favorable. Lui qui a besoin du soutien du PS, ne serait-ce que pour financer sa campagne. Cette primaire devrait être organisée fin septembre, début octobre. Les modalités sont encore à affiner, mais les militants et sympathisants souhaitant voter pourraient avoir à débourser jusqu'à une vingtaine d'euros. Avec ce vote, Olivier Faure, le patron du parti, se retrouve fragilisé. Il défendait une primaire ouverte au plus grand nombre. Il doit maintenant changer de méthode et il faut mettre le cap vers la présidentielle, appelle son opposant interne numéro 1, Boris Vallaud, cette nuit dans un communiqué. Le PS qui, comme depuis des semaines, reste morcelé. L'inquiétude est toujours là, souffle un baron. Quand un autre se lamente, Mélenchon est lancé à pleine vitesse pendant que nous, on tourne encore en rond.
Le plus français des Britanniques en demi-finale de Wimbledon aujourd'hui.
Oui, on s'est déjà habitué au plus british des footballeurs français, Michael Olisier. Voici maintenant le cas inverse en tennis. Un français qui représente l'Angleterre. Il s'appelle Arthur Ferry. C'est le fils du président du FC Lorient en foot et sa présence en demi-finale cet après-midi est une surprise, Eric Salio.
Oui, et soyons clairs, une grande majorité des spectateurs découvrent ce joueur qui a pu jouer le tournoi grâce à une invitation. C'était le cas mercredi de Virginia, une Anglaise qui sirotait un pim sur un banc une heure après l'exploit du franco-britannique face à l'italien Coboli.
Il n'avait pas été sur la touche à cause d'une blessure.
Ça, c'était en 2024. En revanche, elle en savait plus sur sa fiche d'identité.
Il est né en France, il arrivait tôt en Angleterre et ses parents sont français.
So he's French, he's not Brit.
On l'a adopté.
D'ailleurs, voici la prononciation à l'anglaise.
Arthur.
Oh, fantastic. L'Angleterre est sous le charme du fils du président du FC Lorient, lequel voit sa vie prendre une tournure inhabituelle. Mercredi, il a même été présenté à la reine Camilla.
Elle m'a félicité et dit de continuer. Je lui ai dit que c'était mon anniversaire dimanche. Ce serait génial de jouer la finale de Wimbledon le jour de mon anniversaire.
Battre Sacha Zverev, ce serait donc au-delà du conte de fées.
Le conte de fées Tadej Pogacar est toujours en plein dedans. Le Slovène a assommé la concurrence hier sur la sixième étape du Tour de France dans les Pyrénées. 2 minutes 38 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Septième étape aujourd'hui entre Ajetmo et Bordeaux. Une étape pour les sprinteurs.
Merci. Merci Clara Gabillet. C'était le journal de 6h.
Et c'est l'heure d'accueillir Yannick. Yannick qui est en ligne avec nous depuis Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Il me semble, Yannick, qu'on vous a parlé cette semaine au sujet des incendies, non ?
Oui. Oui, bonjour.
Ça va chez vous, Yannick, déjà, parce que vous appelez pour le foot, mais simplement d'un mot quand même, les Pyrénées-Orientales, la situation qui est toujours inquiétante. Comment ça va chez vous, Yannick ?
Ça va.
Vous êtes à Perpignan même, vous ?
Non, je suis dans un petit village à côté.
D'accord.
Un petit village à côté.
C'est vous qui avez voulu rendre hommage à Kylian Mbappé par message tout à l'heure ?
Ah, mais oui, parce que ce monsieur, il est, c'est un extraterrestre mentalement. Parce que Il subit toute la semaine des insultes racistes. Il loupe le penalty parce que c'est un penalty loupé pour moi. Mais il sort quand même un but extraordinaire. Il sort un match extraordinaire. Enfin, mentalement, c'est un extraterrestre, ce monsieur.
C'est presque à se demander si ça lui donne pas de la force tout ça. Hein.
Ah, mais oui, oui, j'en suis persuadé. Mmh. Et bon, là, il est vraiment en mission pour Deschamps. Parce que quand on a vu au coup de sifflet final, quand ils se sont pris dans les bras tous les deux, on l'a vu, il est vraiment en mission pour Deschamps.
Mais elle est belle, cette équipe, d'ailleurs, autour de Didier Deschamps, du capitaine Kylian Mbappé, même Dembélé, quand il a marqué, après une course folle, il a couru dans l'autre sens pour aller rejoindre le banc de touche. Il y a un vrai truc dans cette équipe.
Oui. Après, j'ai juste un petit bémol que j'ai pas compris au niveau de Deschamps. Moi, c'est heureusement que ça s'est pas passé. Mais j'ai pas compris pourquoi il a pas sorti Monsieur Olysée à la 85e minute, quoi. À peu près, parce oui. qu'il a pris le risque. Il a pris le risque qu'il prenne un jaune.
On en parlait parce qu'il y a cette question du jaune et le risque de la suspension, et etc. On en parlait hier avec Virginie Fulpin qui racontait le fait que la suspension du jaune avait été refusée par la FIFA. La réalité, c'est qu'Olysée, il fait très peu de fautes. Hein. Donc, il y avait un risque assez mesuré. Mais, Yannick, vous avez suivi ça avec une grande attention. Une petite préférence, Belgique-Espagne? Ah, c'est vous qui... D'origine espagnole?
J'ai des origines espagnoles, mais je préférerais la Belgique.
Tant qu'à faire, du coup. Écoutez, à France-Belgique en demi, c'est pas mal aussi. La dernière fois, ça nous a porté chance. Yannick, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Et bon courage, Yannick Quémasson à Perpignan, où il fait chaud, où ça brûle dans les Pyrénées-Orientales. Bon courage à vous, Yannick, et merci d'avoir passé un petit coup de fil à RMC.
Il est 6h11, et dans un instant, c'est le choix de la rédaction avec Victor Johannin. Bonjour, Victor.
Bonjour.
Pendant cette canicule, le coup de chaud guette aussi les appareils électroniques qui ont bien du mal à fonctionner normalement avec ces fortes chaleurs.
Oui, les téléphones portables, les frigos, les trottinettes souffrent et les pannes se multiplient.
À tout de suite sur RMC.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h13 sur RMC, bon réveil.
RMC, le choix de la rédaction.
Et la canicule continue sur une large partie de la France. 9 départements en vigilance rouge, 76 en vigilance orange et des appareils électriques qui souffrent.
Bonjour Victor Johannin.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise.
Victor, les appareils électriques du quotidien n'ont pas été conçus pour résister à ces températures extrêmes.
Oui, à commencer par les frigos et les congélateurs. Ils tournent à plein régime, tombent plus souvent en panne et les réparateurs sont débordés. Comme Sylvain, technicien chez Darty, 6 interventions à domicile sur 10 sont causés par la chaleur en ce moment.
Bonjour madame, bonjour. C'est Darty pour le réfrigérateur.
On a pu le constater hier chez Sophie en Seine-et-Marne.
Merci beaucoup. Dites-moi ce qui ne va pas madame.
Oui, j'ai un souci.
Pas de froid du tout?
Pas de froid du tout.
D'accord.
Ça fait une semaine que j'ai galère avec cette situation. On est obligé d'aller faire les courses tous les jours. Vraiment, j'ai passé un moment très difficile.
On va regarder ça de plus près, on va le sortir de là.
Oui.
Je vous laisse passer, sinon je vais vous bloquer.
Merci.
Dès qu'on dépasse les 30 degrés, l'appareil risque un petit peu de dysfonctionner. L'ouverture de portes fréquente, prise d'eau glacée dans le frigo, les enfants qui ferment, au bout d'un moment, ça fait un phénomène de glace important à l'intérieur de l'appareil. Ça fait vraiment un circuit bouché. Et plus de circulation d'air à l'intérieur de l'appareil. Pour les appareils encastrés comme celui-ci, c'est pas plus mal de le sortir régulièrement, mettre un petit coup d'aspirateur derrière, et puis bien nettoyer la grille à l'arrière, effectivement, pour que l'air frais puisse rentrer à l'intérieur.
C'est bon madame, merci beaucoup.
Donc là on va laisser tourner tranquillement.
Oui.
Et je vous rappelle en fin d'après-midi.
D'accord.
Pour voir si les températures sont correctes.
Et alors Victor, il y a un autre équipement du quotidien qui est particulièrement sensible aux fortes températures, ce sont les ascenseurs.
Oui, la Fédération des ascenseurs observe en ce moment un nombre exceptionnel de demandes en simultané. Vincent en a fait l'expérience à Bordeaux, 3 jours pour réparer son ascenseur.
J'étais au zéro, j'appuie sur le bouton de mon étage et j'entends un clac et ça démarre pas. Impossible de rouvrir la porte. J'ai attendu une bonne heure parce qu'évidemment c'était pas le seul ascenseur de Bordeaux qui avait sauté. Voilà, donc le technicien a fait ce qu'il a pu, il est arrivé dans les temps. Mais... Il nous a expliqué, c'est qu'en fait tous ces appareils, ils ont des dispositifs de sécurité. Donc dès que le capteur capte plus de 40 degrés, il se met en sécurité et il fait déjanter l'ascenseur. Sauf que là en fait, des journées à plus de 40 degrés à Bordeaux, il y en a 2 par semaine. Donc voilà, bah là ça fait 2 semaines de suite qu'il plante...
Et alors enfin attention aux petits appareils électroniques, les smartphones, les tablettes, les ordis qui eux aussi sont en souffrance.
Ils sont conçus pour fonctionner entre 0 et 35 degrés. Il faut donc à tout prix éviter de les exposer au soleil, hein, en terrasse ou sur la plage, au risque de les abîmer de façon irréversible. Écoutez les conseils de Laurent Megderian, c'est le patron d'une entreprise d'informatique dans le Calvados.
Principalement, c'est la batterie qui va souffrir de la chaleur. Elle peut gonfler, elle peut percer. Si elle perce, ça peut être risque d'incendie. Donc, faut rester vraiment vigilant par rapport à la température. C'est-à-dire que si c'est grosse chaleur, vous oubliez le téléphone dans la voiture ou dans votre poche, le laisser refroidir dans une pièce sombre à température ambiante et surtout pas le mettre au frigidaire, comme on pourrait croire, pour baisser la température, puisque ça ferait un choc thermique.
Dans le même ordre d'idée, méfiance, si vous êtes propriétaire d'un vélo ou d'une trottinette électrique, ne les rechargez pas en plein soleil, il y a un risque d'incendie qui peut même dégénérer en explosion, surtout si la batterie a subi un choc auparavant. C'est moins le cas pour les voitures électriques, dont les batteries sont mieux contrôlées, donc moins susceptibles de prendre feu.
Merci Victor Joannin. Alors, on met pas le téléphone au frigo, même s'il a très chaud. Sauf si le frigo marche plus, du coup.
Ah oui, dans ce cas-là, c'est bon.
Non, mais parce qu'on a Fred qui est en ligne avec nous à Loire-Atlantique et qui a eu cette mésaventure, il a réagi. Salut Fred.
Oui, bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Bon Fred, le frigo, ça y est, c'est fini, il a rendu l'âme?
Ah, il a pas rendu l'âme. Je suis rentré du week-end, il devait être à plus de 10 degrés, le paquet de jambon qui a gonflé et tout ça, donc tout à la poubelle. J'ai tout dégivré de frigo et j'ai écarté du mur de à peu près 20 cm.
Ah bah très bien, c'est l'astuce c'est bon, recommandée par...
J'ai tout enfermé, j'ai mis un thermomètre dedans, il est redescendu à 4 et il fonctionne très bien. Mais je l'ai pas recollé contre le mur, hein, j'ai quand même décalé. Hein.
Ah oui, vous l'avez laissé comme ça, de toute façon là, à mon avis, pour la saison, vous pouvez y aller tranquille. Hein.
Oui, et puis là, on est en Loire-Atlantique, il fait bien chaud, on est en rouge.
Vous faites partie des 9 départements en vigilance rouge.
Tout à fait.
Et exactement, donc cette nuit, j'ai voulu ouvrir toutes les fenêtres pour avoir un peu de frais. Bon, la seule chose qui est rentrée, c'est les moustiques. Donc, pas de frais, mais les moustiques.
Bon, la technique du ventilo marche à peu près quand même sur les moustiques, mais il faut...
J'ai essayé, mais non, ils sont encore...
Chez vous, ils sont... Ouais.
Bon, bah, mettez-les au frigo.
Il y a des enfants à la maison, Fred?
Là, ils sont partis avec leur maman, là, en vacances. Donc, mais sinon, c'est ventilo dans toute la maison, en Italie.
J'ai aussi le dépanneur dans votre reportage, Victor Joannin. C'est l'enfer, les enfants qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent, qui ferment, et qui ne ferment pas toujours très bien.
Par les moustiques.
Non, c'est vrai que j'ai mon petit paratonnerre à la maison aussi. Merci Fred, merci de votre appel.
Merci bien, bonne journée.
Et bon courage avec la chaleur en Loire-Atlantique, en l'occurrence. Il est 6h18.
On l'a appris hier, la participation de Justin Bieber au concert de la finale de la Coupe du Monde aux côtés de Madonna, Shakira ou encore le groupe de K-pop BTS. Vous le savez, c'est l'une des nouveautés de ce mondial, un halftime show comme au Super Bowl, mondial définitivement musical à chaque but marqué, mais aussi pendant les pauses fraîcheurs. Alors évidemment, on a les classiques, Shakira, Gala, les classiques américains aussi comme Living on a Prayer de Bon Jovi. Qui s'enflamme au passage.
Mais alors, cheveux, là.
Plus surprenant, Mathieu, dans cette playlist de la FIFA, on retrouve des musiques dignes de vos meilleures fins de mariage. Géraldine assure là encore, la Corée. Aurel Guedt s'est installé. Non, il n'a pas l'air de l'avoir. Hein.
Non, moi j'étais plus sur les lacs du Connemara, mais je ne sais pas si c'est très
cool. Alors, pas la FIFA, ouais, non, pas encore. La Macarena, donc, à l'honneur pendant les pauses fraîcheurs. Et alors, hier soir, pendant le match France-Maroc, on a eu droit à ça, écoutez. Prêt? I wanna know.
Un peu,
là on quitte le mariage de la cousine d'Aurel Guedt, hein, pour une soirée camping en famille, ambiance garantie. Et ça, c'est Pitbull, si jamais. C'est aussi dans la playlist de la FIFA. C'est un peu vraiment le mode aléatoire Pro Max, quoi.
C'est pas mal, en fait. Hein.
Je veux dire, dans le stade, la petite ambiance un petit peu,
il fait 60 degrés.
C'est la fête, quoi.
Ouais, oui, c'est la fête. Et c'est la fête que vous vivez sur RMC. Grâce à vous, on est un petit peu dans le stade de Boston. Hein.
Oui, je vous emmène beaucoup, grâce à Jean-Louis Tour aussi, hein, qui m'a donné les infos de cette pause fraîcheur. Parce que nous, on avait les pubs, c'était nettement moins sympa.
À 3h30 du matin, Jean-Louis Tour nous donnait les infos.
Il est sur tous les fronts.
Il est 6h21. Très bon réveil à toutes et à tous. À la une ce matin, Élise.
Et le duo Mbappé-Dembélé qui continue de nous faire rêver et qui nous a offert hier soir la victoire 2-0 face au Maroc. L'équipe de France première qualifiée pour les demi-finales du Mondial. Elle affrontera soit l'Espagne, soit la Belgique qui se rencontrent ce soir à 21h. Un match à vivre évidemment sur RMC. La canicule qui monte encore d'un cran avec 9 départements de l'Ouest qui basculent en alerte maximale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera ce matin une nouvelle cellule interministérielle de crise. Et puis le Parti Socialiste opte finalement pour une primaire fermée, un revers pour le premier secrétaire Olivier Faure qui souhaitait ouvrir le vote aux sympathisants.
Il est 6h21. Et le docteur du morning est arrivé, il est là.
C'est chauffé avec une bonne vieille macarena.
Aurélien, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
La consultation gratuite ce matin.
Faut-il vraiment se faire pipi dessus après s'être fait piquer par une méduse?
Il y a
débat. Oui, le ton est toujours là.
Ah, il y a vraiment débat. Ah, ok. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7. Le morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
6h23, vous êtes sur RMC, on va voir le docteur.
RMC, consultation gratuite.
Et alors, on va souvent le voir le docteur pendant les vacances parce que c'est la période des baignades, et qui dit baignade dit malheureusement piqûre de méduse pour les moins chanceux d'entre nous. On va s'intéresser ce matin aux différentes solutions que l'on nous propose et essayer de comprendre ce qui se passe avec le docteur Aurel Gage.
Alors, rebonjour Aurel, est-ce que c'est grave de se faire piquer par une méduse?
Alors, en fait, on a le même raisonnement à chaque fois pour les piqûres. D'abord, quand vous allez avoir une piqûre, il va y avoir du venin. Donc, il va y avoir une partie qui est liée à la toxine. En général, pour les méduses qu'on va retrouver en Europe, c'est des piqûres qui sont pas graves. C'est-à-dire que la toxine n'est pas si grave que ça. Vous allez avoir une brûlure superficielle, donc quelque chose de plutôt bénin. Et puis, il y a aussi un second risque, globalement, pour toute substance qu'on va vous injecter, donc là, le venin, c'est de faire une réaction allergique, et parfois une réaction allergique grave, qu'on va qualifier d'anaphylaxie. Donc vraiment, il faut distinguer les deux choses. Le choc toxinique, là, vous avez très peu de risques à part une brûlure. Et le risque allergique qui est quand même très faible.
Bon, et alors qu'est-ce qu'on doit faire quand on se fait piquer? Moi, j'ai toujours entendu, il faut se faire pipi dessus.
Ah, ça, c'est dû à la référence. Je pense que vous avez vu l'épisode de Friends. Celui où premier contact entre Monica et Chandler, et bien Monica se fait piquer par une méduse et c'est l'inverse, c'est Chandler qui se fait piquer par une méduse et Monica a la bonne idée de lui uriner dessus. Et bien désolé, spoiler, ça ne sert à rien, hormis pour rapprocher les gens d'un point de vue médical, c'est même potentiellement délétère parce que en fait le problème de l'urine, c'est que l'urine, elle va rentrer dans les vésicules de venin qui sont restantes, elle va les faire exploser. Donc s'il y a certaines vésicules de venin qui ne sont pas arrivées encore à exploser dans votre corps, lorsque vous allez vous recouvrir d'urine, l'urine va pénétrer dans les vésicules, les faire péter et ça va faire sortir tout le venin. Donc à part pour vous rapprocher de votre crush de l'été, c'est une très mauvaise idée.
Oui, c'est une mauvaise idée pour se rapprocher du crush de l'été aussi.
C'est une mauvaise
idée. Je crois. Après,
chacun ses pratiques, je ne juge pas.
Expertise. Mais du coup, on fait quoi?
Alors du coup, on fait quoi? Du coup, la première chose, ça va être déjà d'enlever les vésicules. Donc comment on fait? S'il vous reste des filaments, eh bien vous allez les enlever soit à la pince, soit si vous n'avez pas de pince, vous prenez un t-shirt pour pas mettre les mains directement dessus et vous enlevez les tentacules. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va essayer d'inactiver ce venin. Ce venin, il a une particularité. Je sais que vous adorez les mots compliqués, Mathieu. Donc, il est thermolabile. Thermolabile, ça veut dire
chaleur,
quoi?
Chaleur et labile, c'est les lèvres.
Alors labile, c'est stabilité. Donc, c'est en fait, il est instable face à la chaleur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre du sable chaud. Le sable chaud, vous prenez vraiment le sable le plus brûlant pour qu'il soit à 35-40 et vous mettez votre bras dedans. Parce qu'en fait, à ces températures-là, c'est des températures qui vont inactiver le venin et donc ça va permettre d'éviter que ça empire. Et puis après, on enlève le sable avec une carte de crédit pour être sûr d'enlever, ou avec une carte rigide. C'est pour vraiment arracher au cas où tous les petits harpons qui contiennent du venin qui sont encore accrochés à la peau. Donc première étape, on rince avec de l'eau de mer. Deuxième étape, on met du sable très chaud. Troisième étape, on enlève avec tout simplement la carte.
Je trouvais ça plus simple de se faire pipi dessus, honnêtement.
Ah bah oui, mais
ça marche. Oui.
Alors l'autre chose que vous avez pu voir aussi parfois, c'est le vinaigre. Il y a certaines personnes qui vont vous dire de mettre du vinaigre. Et ben le vinaigre, ça dépend des venins, mais en Europe ça sert à rien. Par exemple, si vous partez en Australie, et ben là en Australie, ça a un intérêt de mettre du vinaigre sur les plaies parce qu'en fait avec le pH, ça permet d'inactiver le venin. Mais là, ce venin, il est particulièrement sensible.
Ça dépend des méduses.
À la chaleur,
en fait.
Exactement. Ah, okay. Mais il est pas sensible aux variations de pH.
Bah comme ça, on saura tout et on arrêtera de faire n'importe quoi au bord de la mer avec nos amis, si j'ai bien compris. Christophe est en ligne avec nous. On est dans le Var avec Christophe à la Croix. Salut Christophe.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise.
Comment ça va Christophe ce matin?
Très très bien, un peu chaud, mais ça va.
Avant d'en venir au mot caché, une petite question, vous avez regardé le match ou pas hier?
On a regardé la première mi-temps, après l'heure de lever a fait qu'il a fallu se coucher.
Ben oui. Non, mais c'est dur, voilà. C'est dur, vous êtes conducteur poids lourd, et vous avez raison, il faut être vigilant sur la route.
C'est ça, absolument.
Bon, vous êtes confiant pour la suite, pour les Bleus?
Absolument, ouais, on ira au bout. Voilà.
On ira au bout, la troisième étoile, c'est fait.
Que ça soit l'Espagne ou la Belgique, ça sera la même chose, on ira au bout.
Ouais, du coup, voilà. Vous pouviez aller vous coucher, vous étiez serein, quoi.
Ouais, grave. Ça, c'est la confiance et l'optimisme. Bon, vous êtes chauffeur routier, Christophe, ça serait sympa d'avoir une petite machine à expresso nomade que vous pourriez emmener dans le camion?
Absolument, alors absolument. On va faire plaisir aux collègues routiers quand on se croisera.
Oui, en plus, vous allez offrir le café à tout le monde. Est-ce que vous avez trouvé le mot caché, Christophe?
Il me semble que c'est s'ingénier.
Exactement.
Bravo.
S'ingénier, s'investir, faire des efforts. Un peu comme Quentin Vinet qui vient de s'installer dans ce studio avec toute la panoplie des bleus. Bravo, Christophe.
Le t-shirt, la casquette,
merci,
les lunettes.
Merci bien.
Et vous Christophe. Remportez la machine expresso.
Merci bien. Et continuez comme ça. À nous faire plaisir toute la journée.
Avec promis, joie. Christophe. Promis. Et bonne route. Bonne route à vous. Bon courage au boulot. Merci de votre fidélité. Surtout, il est 6h28. Vous restez bien. Sur RMC avec nous. Il est 6h29.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure de retrouver Quentin Vinet pour un nouveau journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, les Bleus en demi-finale du Mondial.
Les Bleus qui ont battu le Maroc 2-0, donc hier soir, avec un incroyable Kylian Mbappé. On va en reparler, ils joueront mardi en demi-finale contre le vainqueur du match ce soir entre la Belgique et l'Espagne. Déjà des mesures face à la chaleur, la canicule, notamment à l'attention des personnes âgées, vous verrez, et les incendies. Un camping évacué hier dans la Drôme. 4000 personnes toujours bloquées ce matin dans un village en Savoie.
Et Kylian Mbappé a encore impressionné tout le monde hier soir.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Il a loupé un pénalty que l'arbitre a mis un temps fou à siffler. On s'est tous demandé si c'était pas fait exprès. Avant de marquer le premier but et de faire la passe décisive à Ousmane Dembélé sur le deuxième but des Bleus. Bref, il a tout fait, Valentin Jamin.
Oui, Kylian Mbappé s'est même occupé de lancer les célébrations après le match. Il danse, entraîne ses coéquipiers avec lui devant des supporters français conquis par leur capitaine, buteur et passeur décisif.
Kylian, extraordinaire.
Kiki, bisous. Allez, à chapeau, incroyable.
On a un dieu avec nous.
Et le numéro 10 des Bleus a montré son caractère, un pénalty manqué, des frappes ratées avant de surgir pour marquer son 8e but en 6 matchs dans ce mondial. Une performance saluée par son coéquipier Ousmane Dembélé.
Un joueur qui ne doute pas, il a un mental incroyable, donc on est content pour lui. C'est notre capitaine, on attend encore plus de buts de Kylian.
Lui ne compte pas s'arrêter, seul Lionel Messi a marqué plus que le Français dans l'histoire de la Coupe du Monde et son sélectionneur Didier Deschamps salue aussi son attitude.
Beaucoup pensent que Kylian est quelqu'un qui est un dictateur, qui pense qu'à lui-même. C'est quelqu'un qui, en tant que capitaine, est exemplaire et de par ce qu'il fait sur le terrain aussi, au-delà de tous les buts qu'il marque.
Sorti après un coup reçu à la cheville, Mbappé s'est montré rassurant après le match et pense collectif.
Tant qu'on l'a pas fait, je vois pas ce qu'il y a à se relâcher. On est très content, il y a encore un long chemin. Ce qui nous attend est encore plus dur que ce qu'on a passé.
Le Madrilène est maintenant impliqué dans 100 buts sous le maillot bleu.
Alors c'est la troisième fois de suite que la France se qualifie en demi-finale d'un mondial. Ça pouvait pas mieux tomber, ce sera mardi. Jour du 14 juillet, contre le vainqueur de l'Espagne et de la Belgique, le match de ce soir. Et c'était déjà dans toutes les têtes hein, cette nuit à Paris, où on voit d'ailleurs de plus en plus de scènes de liesse à mesure que la compétition avance.
J'ai hâte des demi, on est confiant pour les demi.
On va les battre dans tous les cas.
On est serein. La troisième étoile, on sait qu'on l'a.
Je pense qu'ils ont passé le plus gros morceau, le Maroc. Je pense que la suite, moi étant d'origine espagnole, on voit avec l'Espagne comment ça se passe, mais... Je suis plutôt confiant pour la France.
C'est incroyable ce qui se passe. C'est le mano mano entre Messi et Mbappé. Et on va y aller au bout. On va être au bout, on va être champion du monde.
Alors, je vous lis quand même la presse étrangère qui est encore dithyrambique ce matin à l'égard des Bleus et notamment de Kylian Mbappé. Les Espagnols trouvent que les Français sont encore meilleurs que lors des derniers tournois. Les Anglais disent que la France est impériale. Et alors les meilleurs, ce sont les Allemands. Ils écrivent que c'est la prise d'assaut la plus irrésistible depuis la Bastille.
Et je trouve qu'ils ont raison. Dites-nous, vous, au 32-16, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi confiant que ces supporters qu'on vient d'entendre? On va aller jusqu'au bout, on va être champion du monde. Vous nous le dites au 32-16. Et puis tiens, vous nous dites aussi qui de l'Espagne ou de la Belgique vous préférez affronter en demi-finale. Il y a aussi le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Un dispositif de sécurité, vous le savez, qui était conséquent en France pour que la fête ne soit pas gâchée. Les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortier à Grenoble. C'est ce que raconte ce matin le journal Le Dauphiné. Mais pour l'heure, pas d'autres incidents recensés.
Il est 6h33 sur RMC. Alors, il y en a pour qui l'ambiance n'était pas à la fête hier soir dans les régions touchées par les incendies.
Oui, comme dans les Pyrénées-Orientales où la situation s'améliore de jour en jour, dit le préfet, mais où le feu n'est toujours pas fixé. Ce matin, il a déjà parcouru 5000 hectares. 9 nouvelles communes évacuées sont de nouveau accessibles depuis hier. Mais voilà le bilan que dresse Marc Bianchini, le maire de Rodez.
On pourrait dire que le plus dur est passé, mais le plus dur est à venir. La tâche reste immense. Il va falloir nettoyer, il va falloir couper tous ces arbres brûlés. Il y a des problèmes sur les réseaux d'eau, avec toutes ces maisons qui ont brûlé, les alimentations d'eau. Il y a un quartier qui n'a pas d'électricité, il n'y a plus de téléphone. Puis il va falloir accompagner les gens aussi, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens en souffrance. On a préparé deux salles pour une cellule de soutien psychologique. Je pense qu'il y en avait vraiment besoin, parce que, je vous dis, c'est un monde qui s'écroule. Les blessures, bon, je pense qu'ils vont mettre du temps à s'effacer, oui. On dirait qu'on sort de la guerre, là. L'extérieur du village, c'est un terrain de guerre.
Il y a un camping et 400 personnes qui ont été évacuées hier dans la Drôme autour de Die, où ce feu, là, dans les montagnes qui fait rage depuis 8 jours, a parcouru désormais 3500 hectares. Et en Savoie, la commune de Pralognan-la-Vanoise, bien connue des amateurs de ski, est coupée du monde à 4000 personnes bloquées en raison du feu de planée toujours actif en face de Courchevel. Ce matin, seule la Haute-Garonne est en alerte rouge pour les risques d'incendie.
Et ce matin, il y a 9 départements de l'Ouest qui sont en alerte rouge pour canicule.
Et 76 autres en orange sur la dernière carte de Météo France, avec encore des records de chaleur qui ont été battus hier à plus de 40 degrés à Narbonne, Perpignan. Il y a une nouvelle cellule interministérielle de crise qui sera présidée ce matin par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Mais sans attendre, des maires organisent des tournées de bénévoles pour rendre visite aux personnes âgées, comme ici, écoutez, à Montguyon, en Charente-Maritime, comme nous le raconte Philippine Boulet.
Une chasuble bleue sur les épaules, Annie sonne chez une habitante de 88 ans. En pleine canicule, la bénévole participe aux visites des personnes isolées.
Ça va ? Ça va.
Appuyée sur son déambulateur, l'octogénaire l'accueille tout sourire.
On papote, ça c'est très important, les papotages. Il y a toujours un petit goûter, forcément.
Et un grand verre d'eau. Avec la chaleur, en dehors de ses visites, elle ne voit personne.
C'est très important de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense un peu à nous, parce qu'autrement, on est très isolés.
Dans cette commune, 22 bénévoles rendent visite à près de 150 habitants inscrits sur le registre des personnes vulnérables.
Et pendant la canicule, c'est certain qu'on a un peu plus de demandes. Les personnes âgées sortent moins de chez elles, donc ce sont les bénévoles qui vont sortir.
Amener des packs de bouteilles d'eau, aller faire les courses ou simplement tenir compagnie.
Je t'appelle demain, oui. Si c'est Hélène qui vient.
Pour le maire Julien Moucheboeuf, avec les canicules de plus en plus fréquentes, ce dispositif est appelé à se renforcer.
Quand on n'a pas assez de bénévoles, nous on est là aussi les élus. On est 19 au sein du conseil. Municipal. Être élu, c'est aussi et avant tout être au service de la population.
L'élu appelle ses administrés à s'engager comme bénévoles pour consolider ce réseau de solidarité.
Alors, il y a les cartes météo, il y a la carte de la route aussi. C'est un des plus gros week-ends de l'année là, qui commence. La journée est classée rouge au niveau national, noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, ce sera noir dans la moitié du pays. La course à la présidentielle à gauche, les militants PS ont choisi dans la soirée à 55% de passer par une primaire fermée. Ils avaient le choix. Chez les Insoumis, il y a Jean-Luc Mélenchon qui promet la fin des coupes budgétaires dans le domaine de la culture, il l'a dit hier depuis le festival d'Avignon. Et puis sur le Tour de France, on est au lendemain de l'écrasante victoire du Slovène Tadej Pogacar à Gavarnie avec 2 minutes 40 d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard, 3 minutes sur les autres favoris. On quitte les Pyrénées aujourd'hui, départ d'Ajetmo pour une arrivée 175 km plus loin à Bordeaux avec un long sprint sur les quais jusqu'au Quinconce.
Le Quintet, c'est à Cabourg.
20h15 dans la soirée, les pronostics de la Dream Team pour aujourd'hui. Le favori, c'est le 15, Jasmine Gemma. L'outsider, ce sera Jewel Kim.
C'est le numéro 4.
Ah oui, le 15 et le 4.
L'outsider, voilà. Le 15 et le 4. Merci beaucoup, Quentin Vinet.
Merci. Et Momo est en ligne avec nous. Un fidèle parmi les fidèles du Morning RMC, Momo à Vitrolles. Salut, Momo.
Salut, Momo.
Et bonjour à tous.
Comment ça va?
Courte nuit, hein.
Ah oui.
Combien de temps vous avez dormi, Momo?
En fait, c'était fractionné parce que je me suis endormi avant les 2 minutes.
Ah bon?
Ah ouais, j'ai pas tenu là, j'étais fracassé, ben oui. Je me suis levé à 1h30 pour, je me suis empressé de prendre le téléphone, voir combien il y avait, et voilà quoi,
j'étais... Ouais. Non mais c'est dur, on le sait en plus hein, dans le morning que vous êtes tous des lève-tôt, donc là il y a eu soit des nuits blanches, soit des nuits très très courtes, on avait un auditeur tout à l'heure qui allait se coucher à la mi-temps, bon, vous avez dit j'ai une petite préférence pour l'Espagne.
Oui, parce que là...
Pour la demi-finale, je le précise, il y a Espagne-Belgique ce soir.
Ouais, parce que dimanche, je m'envole pour l'Espagne, et je vais passer 15 jours là-bas, et j'étais en train de peaufiner un peu la valise, voir ce que j'allais mettre et tout, là, je peux mettre le maillot des Bleus dans la valise.
Ah ouais, vous avez envie de chambrer local, quoi.
On n'est pas chez nous, mais bon, quand même. Ouais.
vous allez ramener les Bleus à la maison. Allez, en Espagne.
On espère vraiment, franchement, on espère. Il y a pas mal de Français qui sont sur Alicante, qui ont des bars, des restaurants.
Oui, vous serez pas tout seul, ça c'est sûr.
Voilà, on va choisir le bon endroit pour aller regarder le match.
Écoutez, vous avez quelques jours, c'est le 14 juillet, la demi-finale.
Ah, le 14 juillet, je serai là-bas.
Ce sera l'Espagne ou la Belgique, donc Momo, bon courage pour la journée de boulot.
Allez, merci. C'est ma dernière journée
après c'est les vacances. Profitez, vous avez bien mérité. Vous allez pouvoir vous reposer et dormir un peu le matin. Il est 6h38 sur RMC.
À suivre, faut-il annuler les événements sportifs pendant la canicule? C'est ce que demandent les médecins urgentistes afin de ne pas saturer les urgences et d'éviter les drames.
Bonjour, professeur Louis Soula.
Bonjour.
Vous êtes chef du service des urgences et du SAMU au CHU de Rennes. Vous allez nous donner un aperçu de la situation actuelle dans les hôpitaux et nous faire part de votre inquiétude pour les jours à venir.
Et puis elle est là, la bande du morning RMC, la causerie Virginie Fulpin.
Et l'équipe de France de football a un don, enfin plusieurs, mais un en particulier, celui de banaliser l'exceptionnel.
Et Anthony Morel pour C'est déjà demain.
Vous écoutez depuis tout à l'heure, j'ai l'impression.
Pardon,
je suis un petit peu perdu parce que j'ai cru comprendre que la Coupe du Monde se passait aux États-Unis.
Bah oui.
Moi j'ai une Coupe du Monde de foot, mais qui se passe en Corée en ce moment.
Ah bon ?
Ouais, mais c'est une Coupe du Monde de foot robotique par contre.
Ah,
pour ça.
Alors à tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h43, très bon réveil à toutes et à tous sur RMC. La canicule qui continue de s'étendre. 9 départements de l'ouest du pays placés en vigilance rouge aujourd'hui, dès midi. 76 autres en orange.
Bonjour, professeur Louis Soula.
Bonjour.
Vous êtes chef du service des urgences et du SAMU au CHU de Rennes et membre du conseil d'administration du syndicat SAMU Urgence de France. D'abord, un point sur la situation dans votre région, l'Ille-et-Vilaine, qui bascule en vigilance rouge. C'est la deuxième fois de l'année. Est-ce que ça se ressent aux urgences?
Alors, ça se ressent pas encore aux urgences. Ça se ressent surtout au niveau des appels, au niveau du SAMU SAS. Et j'avoue que c'est une petite surprise parce qu'on n'avait pas du tout prévu d'être en vigilance rouge dès ce week-end. Encore une fois, la Bretagne est impactée. C'est sa troisième vague de canicule. Donc, par contre, on sait que l'activité, notamment des urgences, va augmenter à partir de ce week-end.
Vous sauriez dire de combien? Enfin, en période de canicule, ça représente quoi en nombre d'appels, en nombre de venus en plus?
Alors, en nombre d'appels, on n'est toujours pas revenu à un niveau normal par rapport à l'année dernière. On a plus 30-40% d'appels au SAMU, ouais. Au SAMU Centre 15. Et aux urgences, on est à 5-10%. Mais encore une fois, c'est le type de patients qui sont hospitalisés en plus grand nombre et qui vont impacter très fortement les disponibilités de lits d'aval pour les hôpitaux qui commencent la période estivale.
Et alors, ouais, justement, on est en pleine période de vacances. Est-ce que vous aurez les bras pour tenir? Est-ce qu'il va y avoir des renforts?
Alors les renforts, ils ont été mis en place. Ils sont bien sûr très difficiles à tenir parce que là, beaucoup de personnel va commencer à partir en congé et ça, c'est tout à fait normal. Ce qu'on espère, c'est pouvoir mobiliser le maximum de lits en période d'été. Il y a toujours sur un territoire des lits qui sont fermés pour permettre justement le repos des personnels. Et c'est là que les cellules de crise vont être nécessaires pour recenser le maximum de lits, en sachant qu'à cette heure, il n'y a pas de plan blanc activé au niveau de notre région.
Oui, pour l'instant, on est censé gérer normalement, je mets des guillemets, mais comme dans une situation normale. Alors, c'est dans ce contexte tendu que l'Association des médecins urgentistes de France demande l'annulation des événements sportifs. La préfecture, d'ailleurs, de Versailles a annoncé dans la foulée l'annulation du triathlon de Versailles prévu ce dimanche, l'annulation des événements sportifs intenses, dirons-nous. C'est le plus raisonnable à faire?
Alors, il faut savoir qu'en parallèle de ce qui se passe dans les établissements de santé, les préfectures ont activé des COD, c'est-à-dire des réunions quotidiennes pour savoir justement les événements annulés. Je pense pas que ce soit à nous, urgentistes, de décider l'annulation de tel ou tel événement. Nous, notre rôle, c'est d'alerter sur les conséquences de l'exposition à la chaleur, comme on l'avait fait pour la deuxième vague. On avait alerté sur le fait qu'il fallait absolument recenser les personnes isolées, éviter des efforts physiques en pleine chaleur, tout comme l'exposition aux fortes chaleurs quand on est travailleur, notamment dans le bâtiment. Ça, c'est notre rôle. Dire qu'on doit annuler, c'est hyper compliqué et ça a quand même des incidences, y compris financières, qui ne nous appartiennent pas d'évaluer ou pas. Je pense par contre, ce qui est raisonnable, c'est déjà de déplacer toute une série de manifestations sur des horaires moins chaud, c'est-à-dire par exemple les cérémonies du 14 juillet, on va pas exposer des foules aux fortes chaleurs en plein après-midi, ça peut être déplacé en soirée ou très tôt le matin.
Alors, justement, professeur Soula, les célébrations du 14 juillet, il y a aussi il y aura la France qui joue en demi-finale ce jour-là, donc des fan zones. Est-ce que tout ça vous inquiète?
Alors, non seulement ça nous inquiète et on a le retour de la Coupe du Monde 2018, hein, où le match se jouait en plein après-midi à 15h, en pleine canicule aussi, ce qui avait provoqué beaucoup de malaise sur les fan zones, dont celle où on était à Rennes. Donc oui, ça nous inquiète, mais là, l'avantage, entre guillemets, c'est que c'est un peu plus tard, c'est à 22h. Je pense qu'il est plus important de voir les horaires de certaines courses, comme le Tour de France, par exemple, qui est toujours en plein milieu de journée. Alors, je ne sais pas si les régions traversées seront exposées, mais effectivement, il va y avoir peut-être des annulations, mais ça va être décidé au cas par cas en lien avec les préfets et les maires, et certainement des reports d'activités. Hein. Bon, il y a en plus le problème des feux d'artifice qui sont gérés également au cas par cas. Alors oui, nous sommes préoccupés. Dire qu'il faut interdire toutes les manifestations, je pense que nous devons alerter en fonction du type de sport, parce que
professeur,
le même niveau d'intensité.
Oui, professeur, ça coupe un tout petit peu. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on est en train de rappeler le professeur Louis Soula. Je rappelle cette actualité de l'Association des médecins urgentistes de France qui demande l'annulation immédiate ou le report des compétitions sportives exigeantes prévues en extérieur. Et ce que nous disait le professeur Louis Soula à l'instant, c'est qu'il y a d'autres conséquences à ces annulations, des conséquences financières qui n'appartiennent pas finalement au corps médical. Mais, professeur, est-ce que vous voyez beaucoup de sportifs arriver aux urgences en ce moment, des sportifs amateurs qui sont allés faire un jogging alors qu'il faisait un peu chaud, etc., etc. Professeur.
Ah, bon.
Non. C'est pas très grave. Professeur Louis Soula qu'on a eu.
On a une coupure.
Ah oui, pardon. Ah, on est au téléphone à présent. Le professeur Louis Soula. Beaucoup de sportifs qui arrivent aux urgences. On en terminera là.
Alors les sportifs, on en a quelques-uns, mais c'est surtout des personnes qui sont exposées à la chaleur, notamment les bébés, les enfants, il ne faut pas les oublier, parce que c'était vraiment un signe d'alerte, et la fréquentation des urgences pour les moins de 5 ans, hein, qui n'ont pas du tout les mêmes réflexes à l'exposition à la chaleur. Les sportifs, on en a quelques-uns. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on continue à voir des sportifs pratiquer une activité, notamment la course à pied en plein milieu de journée, ce qui est forcément évitable. Je pense que notre problème, c'est qu'on a des sujets qui sont évitables. On peut éviter des noyades, comme il y a eu en très grand nombre. On peut éviter des expositions à la chaleur, surtout quand on n'est pas entraîné, mais aussi quand on est sportif et toutes les activités ne sont pas essentielles. Mais encore une fois, décider d'annuler ou pas telle ou telle manifestation, c'est une grosse incidence.
Vous faites des recommandations et vous restez dans ce rôle médical, professeur Louis Soula. Je vous remercie en tout cas de la clarté de vos réponses et chacun à chacun aussi de prendre ses responsabilités quelque part, situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Professeur Louis Soula, chef du service des urgences et du SAMU au CHU de Rennes, membre du conseil d'administration du syndicat SAMU Urgences de France. Merci beaucoup, professeur. 6h50. Les grands titres à la une ce matin, Élise.
Et les Bleus filent en demi-finale du Mondial. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont réussi à se défaire sans difficulté du Maroc. Victoire 2-0. Ils affronteront l'Espagne ou la Belgique mardi. La canicule et 9 départements désormais en alerte rouge. Et puis un revers pour Olivier Faure. Le Parti Socialiste a finalement voté pour une primaire fermée en vue de la présidentielle.
Il est 6h50. Et c'est l'heure de retrouver la bande. Ils sont là autour de la table, Anthony Morel, Virginie Fulpin. On commence par Virginie pour la causerie avec les Bleus qui sont donc en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça fait toujours du bien de l'entendre, de le dire. C'est la troisième fois de suite que les Bleus sont dans le dernier carré.
Oui, et plus si affinité. Et les deux dernières fois, il y avait eu affinité. Je voudrais juste qu'on se rende compte. Troisième demi-finale de Coupe du Monde de suite. C'est dingo. Seuls le Brésil et l'Allemagne ont réussi la même chose dans l'histoire des Coupes du Monde. Reste à faire comme les copains. Trois finales consécutives. Mais c'est pour vous dire où se situe cette équipe de France. Elle fait désormais partie de ce trio-là, au-dessus de l'Argentine, de l'Italie et de l'Espagne. Parmi les grands noms du football, la génération de Platini s'était arrêtée à deux demi-finales en 1982 et 1986. Celle de Zidane n'a même jamais enchaîné deux bonnes Coupes du Monde de suite. La génération Mbappé en est donc à trois demi-finales. Et c'est ça qui est dingue avec ces Bleus-là, parce qu'ils arrivent à banaliser l'exceptionnel.
Et oui, pour les enfants, pour les ados, être en demi-finale, finalement, c'est normal.
Des enfants gâtés pour le foot, je ne parle pas pour le reste. Un gamin de 12 ans, déjà, il ne connaît que Didier Deschamps comme sélectionneur. Et pour lui, quand il y a une Coupe du Monde, l'équipe de France va forcément dans le dernier carré. Tout autre résultat apparaîtrait comme le pire des échecs. Mais je ne suis même pas sûre qu'il puisse l'envisager. Ça n'existe pas, l'échec en Coupe du Monde. Moi, j'ai grandi grandi avec le traumatisme de Séville 82 et des non-qualifications pour les mondiaux de 90 et 94. Ma fille, elle pense qu'une Coupe du Monde, c'est le moment où on ramène la Coupe à la maison, où on chante Freed from Desire et où on perd jamais. Parce que même la finale de 2022, elle se joue au tir au but. C'est pas une défaite de l'équipe de France. Hein. La dernière fois que les Bleus ont vraiment perdu, c'était en quart de finale en 2014 contre l'Allemagne. Depuis, l'Italie, elle a même pas joué un match de Coupe du Monde.
Mais votre fille et mon fils ont le même âge. De leur vivant, là, l'équipe de France n'a pas perdu un match de Coupe du Monde.
C'est fou quand même.
C'est un truc de dingue. On peut appeler ça une génération dorée.
Bah en fait, ça va au-delà de ça. Il y a une génération dorée, oui, des joueurs qui sont là depuis 2018, mais en fait, j'ai compté, ils ne sont que 4. Kylian Mbappé, évidemment, Ousmane Dembélé, bien sûr, N'Golo Kanté et Lucas Hernandez, qui ne jouent pas pour l'instant depuis le début de ce Mondial 2026, et puis c'est tout. Donc, c'est pas juste une génération dorée, l'effectif, il se renouvelle dans les grandes largeurs, et ils restent toujours aussi bons. Barcola, Doué, Koné, Cherki, Olise, et je vais pas tous les citer, ils disputent leur première Coupe du Monde. Pourtant, on dirait qu'ils ont toujours été là. Je veux juste qu'on se rende compte de la chance qu'on a d'avoir ce réservoir inépuisable de talents qui mène l'équipe de France au sommet. Et puis, on n'oublie pas, évidemment, Didier Deschamps, qui est là, lui, depuis 2014. Vivement le 14 juillet.
Ouais, non, mais la chance, ou aussi le travail, la formation de certains, des éducateurs qui s'occupent des enfants, de les faire grandir dans le football aussi.
En plus, ça va au-delà de l'équipe de France. Puisque il y a beaucoup de joueurs qui ont grandi en France qui jouent la Coupe du Monde, même dans d'autres pays.
99, je crois.
Oui,
99 au total de joueurs de la Coupe du Monde qui sont nés en France.
Alors, il y a la Coupe du Monde aux États-Unis, Anthony Morel, mais tu nous apprends qu'il y a une autre Coupe du Monde qui vient de se terminer en Corée du Sud, la RoboCup. C'est la Coupe du Monde de foot des robots, compétition qui peut prêter à sourire, mais en fait, très sérieuse.
Ouais, hein, absolument. Et alors, le foot robotique, sachez que la France est triple championne du monde, donc c'est pas mal. Les robots, ils l'ont sur le maillot.
Les deux.
Non, alors, c'est très sérieux. C'est une compétition qui a lieu tous les ans, la RoboCup, et donc c'est des équipes de robots qui ont été programmées pour dribbler, se passer la balle, se coordonner entre eux, tirer, marquer des buts, enfin voilà, du foot quoi. Alors il y a différentes catégories, vous avez des petits robots type un peu robot aspirateur, et puis ça va jusqu'aux humanoïdes, donc des matchs 11 contre 11 avec des machines, avec des bras et des jambes qui jouent les unes contre les autres. Alors quand je dis qu'ils jouent, faut quand même qu'on s'entende, parce que quand on regarde les images, et franchement, allez les voir sur Internet, ça vaut le détour, ça titube plus que ça ne court, on est plus proche du papy Garavater que de Kylian Mbappé. Pour l'instant, mais l'ambition
des organisateurs... J'aimerais bien voir les robots paraguayens aussi.
Oui, c'est ça.
C'est Terminator, je crois.
Bah pareil, tu vois, il tacle à fond, il n'y a pas de souci. Alors non, le truc, c'est que les organisateurs ont une ambition quand même assez folle, c'est que d'ici 2050, ils veulent faire s'affronter une équipe de foot robotique avec une équipe de foot championne du monde humaine et que les robots l'emportent. Ça semble complètement fou vu où on en est aujourd'hui, mais à la vitesse à laquelle avance la robotique, c'est pas complètement délirant de se dire que d'ici quelques années ou quelques décennies, eh bien, on serait capable d'en arriver là.
Bon, ces robots sportifs, c'est juste pour amuser la galerie ou ça a quand même derrière quelque part une utilité?
Non, ça a une vraie utilité. En fait, c'est une vitrine technologique, ça sert pas à grand chose, un robot qui joue au foot, évidemment. En revanche, ces avancées technologiques.
Ça peut m'amuser quand même.
Ouais, c'est très rigolo. Non, mais moi, je serais capable, c'est très hypnotisant. Moi, je suis capable de regarder ça pendant des heures. Mais derrière ça, on peut, par exemple, utiliser toutes les avancées dans le domaine de la motricité. Bah, par exemple, pour concevoir des appareils pour des personnes handicapées, par exemple. Mmh. On va pouvoir se servir de ces technologies qui permettent aux robots de se repérer sur le terrain pour faire de l'agriculture de précision. Si ces robots sont capables de se promener balle à la main, balle au pied plutôt, parce que sinon ils font une faute, très très vite, et ben demain ils seraient aussi capables de réaliser des missions de sauvetage en terrain difficile par exemple. Donc voilà, on peut imaginer plein de cas d'usage au-delà du fait d'avoir des robots qui jouent au foot, ce qui est toujours très rigolo.
Merci beaucoup Anthony Morel, c'est déjà demain, mais tout de suite c'est aujourd'hui et c'est avec Apolline Matin. C'est moyen en français aussi. La France en demi-finale de la Coupe du Monde, vous l'avez vécu sur RMC, victoire 2-0. Vous avez vibré. Est-ce que cette équipe vous a définitivement conquis, comme moi en tout cas? Venez nous le dire au 32-16. Venez partager avec nous l'émotion, la joie, l'enthousiasme et vos analyses, bien sûr. Le 32-16 et le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. Allez les Bleus.
5-7. Le Morning RMC.